RCF.
Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous, c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité de la semaine sur RCF. Nous analyserons les chiffres du chômage de l'année 2019 qui ont été dévoilés lundi. Des chiffres plus qu'encourageants car Pôle emploi enregistre son plus faible taux de demandeurs d'emploi depuis la crise de 2008. Ce vendredi 31 janvier est une date importante pour le Royaume-Uni car c'est aujourd'hui que le pays quitte officiellement l'Union européenne. Beaucoup de questions restent tout de même en suspens dans l'application concrète du Brexit. Nous évoquerons la peur suscitée au plan mondial par la propagation d'un nouveau virus apparu en décembre en Chine et qui provoque de graves troubles respiratoires. Nous parlerons du plan de paix pour le Proche-Orient détaillé cette semaine par Donald Trump, un plan qui, sans surprise, va essentiellement dans le sens de l'actuel gouvernement israélien et qui provoque la colère des Palestiniens. Et puis, comme c'est notre habitude, nous conclurons l'émission par les coups de cœur ou les coups de gueule de la semaine.
Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
Avec trois invités qui ont accepté de venir jusqu'à 10h. Patrice de Plainquette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste et blogueur. Emeric Christensen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire La Vie. La une cette semaine, Emeric?
Alors, c'est la une sur le Brexit qu'on a traité sous l'angle surmonter la rupture en prenant ce parallèle entre cette séparation politique et une rupture amoureuse et les conséquences qu'elle a.
Jérôme Quéré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général du mouvement européen France. Pour intervenir dans cette émission, vous pouvez appeler dès maintenant Catherine au standard qui me relaiera vos messages par écrit.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
Et on commence par cette nouvelle qui, sans nul doute, réjouit le gouvernement qui a du mal à faire passer en ce moment la pilule de son projet de réforme des retraites. L'embellie sur le terrain de l'emploi en 2019 avec moins 3,3 points enregistrés par Pôle emploi. La France connaît sa plus forte baisse du chômage depuis la crise économique de 2008. Ce recul du chômage concerne, avec des variantes, toutes les catégories d'âge, de sexe ou d'ancienneté dans la recherche d'emploi. Ces chiffres encourageants ont poussé le ministre de l'économie Bruno Le Maire à afficher son ambition, celle du plein emploi d'ici les 5 années à venir. Alors lundi, Emmanuel Macron, lui, a rappelé l'objectif d'arriver à 7% de chômage en 2022. On peut les croire, Patrice de Plainquette. Alors Emmanuel Macron, j'imagine que oui, Bruno Le Maire, ça semble très ambitieux, non ?
Ça semble très ambitieux. Bon, ça n'est peut-être pas irréaliste, mais il faudrait que beaucoup de paramètres restent très positifs. Alors que un de ces paramètres manque, et c'est la croissance qui reste très molle. Alors ça, c'est le premier, si j'ose dire, bémol. Mais le fait est que malgré une croissance faible à 1,3%, l'emploi semble se redresser.
Oui, ce qui peut paraître être paradoxal.
Oui, si la croissance n'est pas à l'origine de cette baisse, alors d'où vient-elle ? Alors certains disent... c'est tout simplement dû au ralentissement de la progression de la population active. Et que ce ralentissement est déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. Cela dit, la baisse démographique peut contribuer à faire baisser le chômage, mais elle ne peut pas contribuer à créer des emplois. Alors le gouvernement, naturellement, dit c'est notamment la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, en baisse de cotisation patronale. C'est-à-dire que ça a créé 30 000 emplois, c'est pas nous qui le disons, c'est l'INSEE, dit Matignon, etc. Alors de là à affirmer que Macron est en train de restaurer l'économie française, bon, il y a peut-être une marge.
Oui, alors j'aimerais vous faire entendre, ou vous lire, et vous faire entendre du coup ce qu'écrit l'économiste Mathieu Plane. Ce ne sont pas les gains de productivité qui expliquent ces créations d'emplois, sauf à considérer que la croissance est sous-estimée en France, ce qui n'est pas ce que dit l'INSEE. Il y a bien un mystère... Alors Mathieu Plane emploie le mot de mystère. Il y a bien un mystère à voir que la France arrive désormais à créer significativement des emplois alors que la conjoncture reste molle. Emeric Christensen, une réaction, une analyse par rapport à ce qui peut apparaître comme un paradoxe, qui n'en est pas un vraisemblablement, mais voilà, qui pose question en tout cas.
Ouais, une analyse du paradoxe, je suis pas assez spécialiste pour m'y risquer, ce serait très très périlleux. Non, sans doute que on doit pouvoir considérer quand même des effets de long terme qui dépassent aussi le quinquennat actuel, même si il est pas du tout, enfin il est hors de question d'écarter totalement les efforts du gouvernement et du travail d'Emmanuel Macron. Moi, ce qui me frappe surtout, au-delà de ça, c'est un autre mystère. C'est-à-dire qu'on a une bonne nouvelle sur l'emploi, une très légère bonne nouvelle sur la croissance quand même, et ça passe un peu sous les écrans radars dans le ressenti des gens. C'est-à-dire que le ressenti qu'on a dans la société aujourd'hui ne correspond absolument pas à cette nouvelle. Et le gouvernement peut se réjouir. On est au milieu d'une crise sociale dont on parle tous les jours. et qui occupe en fait beaucoup plus les esprits que ça, et on n'a pas l'impression que ça change grand-chose.
Oui, mais les médias effectivement étaient un peu gênés, et je crois que c'est le directeur de La Croix qui l'a souligné dans un édito récemment. Si on se réjouit, on peut être taxé de pro-macroniste, pro-président, et les médias n'ont pas envie d'être dans ce registre-là. Jérôme Quéré.
Moi, je vais prendre l'exemple d'un autre média qui a fait la comparaison avec le Portugal. Donc, c'est France 2 qui a diffusé une vidéo montrant que le chômage a été divisé par deux en 5 ans au Portugal. Donc, on se dit quand même belle performance. Et donc ça, ce serait dû notamment à des réductions d'impôts pour des entreprises, essentiellement des entreprises étrangères. Donc, on peut aussi un petit peu faire le parallèle en France avec la réduction des impôts pour les entreprises, hein. Et puis ce qui va venir d'ailleurs pour la prochaine année selon le projet de loi de finances. Mais il y a aussi une réduction drastique de la dépense publique au Portugal et une situation assez problématique pour tout ce qui est dans le domaine hospitalier, les transports. Donc, on en est pas là en France, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend dans la crise sociale aujourd'hui, notamment à travers les gilets jaunes, mais plus largement que ça. Donc c'est un parallèle intéressant à faire. Est-ce que la baisse du chômage doit être un totem absolu, peu importe ce que là ça a comme conséquence par ailleurs, ou est-ce que on doit avoir une image plus globale de la société et prendre en compte en effet le ressenti des gens, notamment dans tout ce qui est domaine public.
Oui, on pourra revenir là-dessus si vous le voulez, mais j'aimerais vous faire réagir, Patrice de Plainquette, à ce qu'a dit il y a quelques instants Emery Christensen, considérant effectivement ces résultats comme des effets de long terme. Finalement, c'est la promesse de François Hollande, mais un peu différée, non ?
Il est certain que ce dont on se félicite aujourd'hui, c'était amorcé sous François Hollande. C'est-à-dire que le malheureux, les effets positifs qu'il attendait comme le Messie, sont arrivés après son départ. Est-ce qu'on peut attribuer totalement aux mesurettes Hollande ce qui se passe en ce moment? C'est très difficile à dire, et vous serez assez d'avis de Plane quand il parle de mystère, entre guillemets, quoique le mystère en économie et en économie sociale n'est pas une discipline très fréquentée. Alors cela dit, par rapport au ressenti des Français dont parlait Emery Christensen, il y a une chose qui est quand même un peu frappante, c'est qu'au baromètre Kantar de décembre 2019, la priorité des Français n'était plus la lutte contre le chômage, c'est la première fois, et c'était la santé publique. C'était l'urgence de redresser l'hôpital. C'était ça, la grande priorité à entendre les sondés du baromètre Kantar. Ça veut dire quelque chose, hein. C'est un premier bémol. Un autre bémol, je collectionne les bémols, c'est que les chiffres sur l'emploi ont deux sources. L'une, c'est l'INSEE, l'autre, c'est Pôle emploi. Et les chiffres les plus optimistes dont on parle en ce moment, ce sont ceux de Pôle emploi. Mais comme toujours avec Pôle emploi, c'est une analyse partielle du marché du travail. Parce que les chiffres de Pôle emploi ne prennent pas en compte des choses aussi importantes, des variables clés comme le taux d'activité, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'actifs et la population en âge de travailler.
Oui, donc alors, effectivement, ça veut dire qu'il peut y avoir des écarts dans les chiffres selon les sondeurs, quoi.
Il peut y avoir des écarts, et tout ça, en réalité, c'est des virgules, c'est au-delà de la décimale, c'est à regarder au microscope électronique. Cela dit, il y a une chose quand même qui est un fait, ça c'est un fait avéré, c'est que dans cette baisse du chômage, tous les indicateurs sont au vert, mais plus ou moins, c'est relatif, c'est variable, mais c'est au vert si l'on parle de l'âge, si l'on parle du sexe, ou si l'on parle d'ancienneté au chômage. Le nombre de chômeurs baisse de 2,2% chez les moins de 25 ans et de 1,4% chez les plus de 50 ans. Alors ça, c'est en effet assez nouveau.
Donc
c'est
ça veut dire que ce ne serait
nouveau.
Pas une baisse passagère.
Ça veut dire que ça ne serait peut-être pas une baisse passagère. Alors là, on retombe sur le mystère de Plane.
Le mystère Plane, comme on dit.
Le mystère Plane.
Effectivement. Alors... Patrice de Plinquette parlait de bémol. Moi aussi, je vais donner un autre bémol pour nuancer un peu le tableau. On peut rappeler, Aymeric Christensen, que la France compte encore plus de 3 500 000 demandeurs d'emploi avec la persistance d'un chômage de longue durée. Ça, il faut effectivement aussi le rappeler. Ça n'émerge pas forcément dans les articles qu'on a pu lire sur cette embellie réelle, mais il ne faut pas oublier aussi les nuances.
Ben c'est pas des nuances, c'est des chiffres concrets et qui sont quand même assez massifs, qu'il faut évidemment garder à l'esprit parce que c'est pas une petite embellie et il y a quand même une situation qui reste très 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 préoccupante et dont il faut sur laquelle il faut travailler de façon générale. Ce qu'il faut redire, c'est que là on se réjouit d'une petite baisse de 3,3%, voilà. Les chiffres aujourd'hui ne suffisent plus, n'en déplaise à Emmanuel Macron pour le coup, n'en déplaise à François Hollande aussi qui attendait un retour de la croissance comme le Messie, comme disait Patrice de Plinquette, c'est-à-dire même indépendamment de ce que lui-même allait faire, il espérait juste que ça allait repartir tout seul. Les chiffres suffisent plus, on a des attentes qui sont concrètes et on peut pas se contenter de se réjouir sur quelques petits pourcentages et virgules. On a des attentes concrètes et on le voit tous les jours dans le monde de la santé, dans la société avec la crise des gilets jaunes l'an dernier. C'est ça aussi qu'on attend du gouvernement.
Jean-Michel, est-ce que vous avez quelques éléments comparatifs sur un plan plus global en Europe? Cette embellie, elle ne concerne que la France où il y a... Alors, vous avez parlé du Portugal, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pays encore qui sont dans cette dynamique d'une embellie sur le front de l'emploi?
Alors, pour pas innover, on va parler peut-être d'Allemagne, au fait que c'est un taux de chômage qui est assez faible et qu'on cite assez souvent en exemple. En effet, en juillet 2019, c'était 3% de chômage. Donc c'est voilà, ça peut faire rêver certains. Pour autant, il faut regarder que le temps de travail partiel est à 26,8% quand même. Donc certes, moins de chômage, mais quand même
mais
un peu
plus.
Mais
de la précarité quand même.
Voilà. Et justement, au niveau des travailleurs pauvres, si on peut donner ces mots-là, on est à 9%. Donc on est quand même au-delà de la France qui est à environ 7,1%. On a encore les chiffres là pour l'instant de 2018 d'Eurostat.
Alors même si effectivement, il faut nuancer, il faut donner des bémols, une dernière remarque, Patrice de Plinquette, sur un plan purement politique. On va dire qu'on ne pourrait pas mieux rêver pour le gouvernement. Je le disais en introduction, ça permettrait de faire passer plus facilement les réformes en cours, notamment les moins populaires, cette embellie.
Ce n'est pas certain parce que les problèmes sont très séparés et surtout, comme on le remarquait tout à l'heure, le ressenti est profondément différent des chiffres allégués. Et contre le ressenti, on ne peut pas grand-chose. Si les gens vivent leur propre situation comme étant bouchée, on ne peut pas leur démontrer qu'elle ne l'est pas. Mmh. Ça, c'est certain. D'autre part, oui, ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai aussi. Si la gauche existait encore, elle pourrait faire valoir que c'est depuis 2015 que les embauches en CDI remontaient. Oui, 2015. Et puis effectivement, comme ça vient d'être dit, les contrats courts restent très largement majoritaires, et quelquefois les contrats très courts, contre lesquels pas grand-chose n'est fait. Je veux dire, pour diminuer les abus de cette pratique, pas grand-chose n'est fait, contrairement à ce qui est annoncé.
RCF, le temps de le dire.
Après 3 ans et demi de difficiles tractations, c'est officiellement ce vendredi 31 janvier à minuit que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Cela ne signifie pas pour autant que le Brexit se concrétisera immédiatement. Dans les faits, à partir d'aujourd'hui, s'ouvre en réalité une période de transition de 11 mois durant lesquelles des négociations auront lieu entre Londres et Bruxelles. Alors, Jérôme Quéré, quels seront les contours de ces nouvelles négociations? Pourquoi de nouvelles négociations, d'ailleurs?
Ce qu'il faut bien savoir, ce qu'on va faire après ce divorce, qu'en est-il des prochaines relations? On a un certain nombre de règles avec les États-Unis, avec le Canada, la Corée du Sud, avec tous nos partenaires commerciaux extérieurs à l'Union européenne. Et le Royaume-Uni devient un pays extérieur à l'Union européenne. Donc est-ce qu'ils vont se rapprocher du modèle norvégien où, en fait, ils font beaucoup de choses avec nous, mais ils appliquent le droit de l'Union européenne sans forcément avoir leur mot à dire? Puisqu'ils veulent bénéficier des avantages, hein, de faire partie de ce club quand même tout en n'étant pas officiellement dedans? Ou alors est-ce qu'ils seront plutôt comme le Canada, avec des relations fortes, mais quand même plus d'autonomie que la Norvège? Ou alors est-ce qu'on va encore un peu plus loin et des pays avec qui on n'a pas beaucoup de relations commerciales? C'est pas envisageable pour le Royaume-Uni, parce que la quasi-totalité, enfin pas la quasi-totalité, mais une grosse majorité de ces flux financiers et économiques sont avec le reste de ses partenaires européens. Mmh. Et très 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 loin devant les États-Unis ou le reste du Commonwealth.
Alors, on pouvait penser à tort, Patrice de Plainquette, que tout était réglé. En fait, tout commence.
Naturellement, tout commence. Il y en a pour un an. En réalité, un an, c'est trop court, comme Barnier l'a très bien souligné. Mais Boris Johnson s'est engagé à ce que, devant ses électeurs, à ce que ce soit bouclé au 31 décembre 2020, et il fera en sorte que ça le soit. Du coup, ils vont sélectionner les sujets de première urgence et laisser tomber les sujets secondaires. Mais les sujets secondaires ne sont pas secondaires du tout. C'est le statut des personnes, etc. Ce sont des choses importantes aussi. Donc, c'est un marathon qui commence, mais qui ne durera certainement pas aussi longtemps que ce qui a précédé.
Alors, Aymeric Christensen, je le disais, dans l'hebdomadaire La Vie de cette semaine, vous faites votre une sur le Brexit. Est-ce que vous pouvez nous dire, sans déflorer complètement le dossier, parce que j'invite bien sûr nos auditeurs à lire ce dossier et cet hebdomadaire, vous titrez dans Le Choix de la Vie, récit d'un divorce annoncé. Il est important de revenir sur cette histoire du Brexit pour comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui qui attendent les Britanniques.
C'est très important, et c'est ce que... Alors, je vous disais tout à l'heure, on l'a choisi de le traiter comme une rupture amoureuse et de le reprendre en faisant ce parallèle, parce que en réalité les liens sont très forts, c'est-à-dire que ce qui s'applique à des individus qui se sépareraient s'applique aussi à des peuples avec des précautions, avec des différences, mais ça s'applique quand même. Aujourd'hui, on a un divorce qui est acté. Il n'a pas été prononcé dans les faits, dans les détails, dans tout ce qui a été conclu, mais on est revenu dans le dossier, pour en parler un peu, avec une philosophe, Claire Marin, sur cette histoire de la rupture. Elle a travaillé sur la rupture davantage amoureuse, et on lui fait parler de cette rupture entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et une des pistes qu'elle a, elle, pour retravailler ce lien qui se rompt, c'est d'écrire aussi l'histoire du désamour et de la rupture, c'est-à-dire de bien regarder comment ça s'est défait. Parce que construire, c'est compliqué, c'est un travail lent, patient, ça demande du travail. Détruire, ça semble facile, mais en réalité, ça demande du travail, parce que ça crée des ruptures aussi internes, et le Royaume-Uni ne sera pas épargné par ça, probablement, dans son rapport avec l'Irlande du Nord, dans son rapport peut-être avec l'Écosse, même si c'est plus compliqué. Voilà. Et toutes ces fissures, toutes ces ruptures internes, eh bien, on n'a pas fini d'en parler aussi. C'est pas qu'une histoire de négociation commerciale et sur les personnes avec l'Union européenne.
Et pour continuer de filer la métaphore, Jérôme Quéré, dans une rupture, dans un désamour, les responsabilités sont bien souvent partagées. Mmh. Alors comment ça s'applique pour le cas du Royaume-Uni avec l'Union européenne ?
L'Union européenne forcément n'est pas parfaite, hein. Aucun fonctionnement étatique ou supra-étatique n'est parfait, bien entendu. Les Britanniques avaient leurs critiques envers l'Union européenne, mais ils la changeaient de l'intérieur. Et à l'intérieur, leur poids comptait beaucoup. La souveraineté britannique exercée dans l'Union européenne avait un poids très très fort. Et donc, ils avaient vraiment un impact concret sur la direction que prenait l'Union européenne. Parfois, certains pouvaient être frustrés de cela. Ils disaient l'Union européenne se concentre trop sur les aspects économiques et pas assez politique ou social. C'est aussi une partie des Britanniques, des représentants britanniques au Parlement européen et leur ministre, hein, au sein du Conseil des ministres, qui justement bloquait cette avancée politique puisque ce n'était pas la vision du Royaume-Uni. Maintenant que le Royaume-Uni s'en va, on ne sait pas si on va en profiter pour avancer plus sur ces questions, hein, ça on verra. Mais en tout cas, en effet, ces Britanniques avaient quand même plus de souveraineté, de puissance, de pouvoir au sein de l'Union européenne qu'à l'extérieur. Et ils pourront toujours autant critiquer de l'extérieur, mais ça n'aura pas du tout le même poids.
Aymeric Christensen, avant d'écouter Patrice de Plainquette, Aymeric.
Non, sur cette question de souveraineté et de pouvoir que les Britanniques avaient au sein de l'Union européenne, la question, pour finir de filer peut-être la métaphore de la rupture, c'est aujourd'hui de savoir si le Royaume-Uni veut défaire cette union pour retrouver une vieille maîtresse américaine de l'autre côté de l'Atlantique. Et est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu naïfs là-dedans, dans la volonté de s'émanciper d'un lien avec l'Union européenne pour se jeter dans les bras d'un autre partenaire historique qui n'a pas forcément envie de leur laisser toutes les marges de manœuvre qu'ils voudraient?
Alors j'aimerais vous entendre là-dessus justement, Patrice de Plinquette. Est-ce que ce serait une bonne stratégie de la part de Boris Johnson de se rapprocher de façon très concrète de Donald Trump?
Oui, quand on dîne avec le diable, il faut une longue cuillère. Un accord avec Trump, on sait que c'est un accord américano-américain, et que Trump fait violence à ses partenaires, et il se soucie très peu de leurs intérêts. Donc, il est probable, si Johnson se laisse happé par les promesses de formidables traités de libre-échange du jamais vu, etc., terrific, tout ce que lui dit Trump, que les intérêts anglais ne s'en sortiront pas bien. Cela dit, excusez-moi de faire diversion, mais il y a deux choses tout de même, par rapport à ce qui a été dit précédemment et par rapport à ce que j'entends chez nos confrères des radios ce matin, il y a une chose qui m'étonne beaucoup et il y a une chose qui n'est pas dite. Alors la chose qui m'étonne beaucoup, c'est que pour un certain nombre de nos confrères et de nos éditorialistes, la chose est entendue, c'est comme si, ils le commentent, comme si le Brexit était imposé aux Anglais par une petite minorité d'abrutis. En réalité, si on revient aux chiffres du référendum, non, c'est quasiment 52% des Anglais, avec un taux de participation de 72%, qui ont voté pour le Brexit. Qui a fait la différence? Eh bien, les exclus, ou ceux qui se vivent comme exclus de la construction européenne, c'est-à-dire le nord de l'Angleterre. Et c'est un phénomène comparable à celui des Gilets jaunes, en plus massif et en plus politique.
Mais sans vouloir mépriser les électeurs, Patrice de Plinquette, n'ont-ils pas tout de même été un peu, voire beaucoup, instrumentalisés?
Instrumentalisés si on leur a fait de fausses promesses, oui. Instrumentalisés si les conservateurs qui menaient la danse avec le parti Brexit de
Farage,
si les conservateurs ont l'intention de faire une politique ultralibérale qui aggravera encore les effets du thatcherisme sur l'Angleterre de Ken Loach, si je puis dire, alors là, oui, effectivement, là, ce sera un drame, ce sera une haute trahison. Maintenant, Boris Johnson a compris, il est assez fin comme politicien, il a compris le danger, et il a fait une campagne électorale très sociale. Du coup, les travaillistes étaient furieux. Ils disaient, il nous vole nos idées, alors qu'il n'a pas l'intention de les appliquer. Maintenant, va-t-il ou non les appliquer? On n'en sait rien, on va voir. Mais le second point, ce qui n'est pas dit du tout par nos confrères, sauf un ou deux analystes, mais dans des journaux dits de référence, c'est que il y a eu non un conflit entre classes sociales, pro et anti-Europe, mais entre la classe politique, c'est-à-dire les communes, et le résultat du référendum. Il y a eu conflit entre deux légitimités pendant des années, entre un Parlement majoritairement hostile au Brexit et ce que les électeurs avaient dit lors du référendum. Et ça, c'était nouveau, et ça, c'était le vrai séisme politique en Angleterre. Et je dis évidemment Angleterre, non pas Royaume-Uni, parce que ni l'Écosse, ni le Pays de Galles, ni l'Irlande du Nord n'ont voté pour le Brexit.
Là-dessus, Jérôme Quéré, le risque qu'encourait le Parlement, c'était d'être dans un déni de démocratie?
Oui, ça aurait été quand même dramatique pour le Royaume-Uni, mais aussi pour le reste de l'Union européenne, parce qu'on aurait dit on ne respecte pas le choix souverain des peuples. En effet, les Britanniques ont souverainement choisi de quitter l'Union européenne. L'Union européenne, c'est pas l'URSS, on peut en partir. Voilà, c'est le message qui est envoyé. On n'est pas obligé d'y entrer. La Norvège a dit deux fois non par référendum. On n'oblige pas la Norvège à nous rejoindre. Le Royaume-Uni veut partir, il peut partir. Ensuite, l'image qui a été un peu affligeante, en effet, c'est des députés britanniques qui n'arrivaient pas à s'entendre ensemble sur comment partir de cette Union européenne. L'Union européenne, de son côté, a rendu sa copie bien en amont, grâce à Michel Barnier, qui a quand même beaucoup de patience, il faut le dire. On a accepter de revoir notre copie avec Boris Johnson alors qu'on a dit qu'on ne reverrait pas. Bon, c'était quand même à la marge, mais bon, c'est pour lui permettre de dire qu'il a gagné au niveau du plan interne, comme ça, ça peut passer. On a souvent cette habitude dans l'Union européenne d'avoir un discours différent à Bruxelles ou dans sa propre capitale. Et donc, voilà, ça y est maintenant, c'est acté au moins virtuellement, puisqu'il y a une période transitoire jusqu'au 31 décembre, et on verra pour la suite des relations. Donc, le choix des Britanniques a été respecté. Ensuite, pour l'analyse de pourquoi pourquoi ce choix au référendum de voter pour le Brexit, ça, on commence déjà quand même à avoir des retours, mais ça sera un peu plus dans le temps qu'on pourra vraiment faire avoir le recul nécessaire pour identifier. Bon, à la sortie de la crise économique et financière de 2008, bien sûr que ça a eu un impact. Bien sûr que les gens se sont dit l'Union européenne ne nous protège pas suffisamment. Mais bien sûr que l'Union européenne n'était pas la seule sur la table dans ce référendum. Qu'il y avait aussi une remise en question des politiques de manière générale. Que ni le parti travailliste, ni le parti conservateur n'étaient clairs sur cette position. Le parti conservateur disait on va négocier un Brexit si on n'a pas ce qu'on veut. Cameron revient, dit bah ça y est, c'est bon, j'ai eu ce qu'on voulait par nos partenaires européens, donc je ne suis plus pour le Brexit. Raté. Et le Parti travailliste n'a pas été clair du tout non plus. Même jusqu'aux dernières élections, il y a quelques mois, le Parti travailliste n'a pas été clair non plus du tout sur sa position sur le Brexit.
Et puisqu'on parle de Boris Johnson, Premier ministre actuel, il n'était pas clair à l'origine sur la question.
Non, il a eu un revirement de position plusieurs fois.
Il a dissocié Boris Johnson il y a quelques temps, il y a quelques jours. Parfois, nous avions l'impression que nous ne franchirions jamais la ligne d'arrivée du Brexit, mais nous l'avons fait. Nous pouvons maintenant oublier les rancœurs et les divisions de ces trois dernières années et nous concentrer sur la mise en œuvre d'un avenir radieux et palpitant.
Oui, oublier les rancœurs et les divisions, c'est pas tout à fait... c'est pas gagné. Il va avoir du travail là-dessus, mais... Dans la lignée de tout ce qui vient d'être dit, hein, il faut quand même reconnaître que Boris Johnson, qui n'a pas toujours été clair, est un politique très pragmatique, qui joue parfois un peu les idiots en public, mais qui est quelqu'un de très intelligent. Ce qui nous apparaît comme une folie dans ce Brexit, de notre point de vue, hein, de Français, d'Européens, voilà, il faut reconnaître qu'en parallèle, Boris Johnson fait ce que les Anglais ont demandé et veulent, et qu'on a voulu peut-être croire aussi qu'un nouveau référendum viendrait changer la donne, que en fait les Anglais ne voulaient pas de ce Brexit et avaient changé d'avis. On s'est bercé d'illusions aussi en regardant parfois trop Londres à la loupe, et pas seulement toute la société et tout le pays. Faut reconnaître à Boris Johnson aussi d'avoir redonné une seconde légitimité électorale à ce Brexit en faisant campagne dessus, en obtenant une large victoire. Et ensuite, il applique, et d'une certaine façon, c'est aussi une bonne nouvelle pour la politique d'avoir des politiques qui font ce que le peuple leur demande de faire.
Jérôme Kéré.
Par contre, la situation avec l'Écosse est un peu compliquée puisque l'Écosse, comme vous l'avez rappelé, au référendum n'a pas voté en faveur du Brexit. Et Nicolas Sturgeon va prendre la parole demain et éventuellement parler de l'indépendance de l'Écosse. Oui. C'est un sujet qui revient sur le tapis régulièrement. L'Écosse avait choisi de ne pas être indépendante, mais ce choix avait été fait avant la décision de quitter l'Union européenne. Les Écossais ne sont pas pour quitter l'Union européenne.
Pour conclure là-dessus, Patrice de Plainquette, pour conclure sur le sujet du Brexit, on peut dire, même s'il y a un certain lyrisme dans les propos de Boris Johnson que j'ai cité il y a quelques secondes, il semble que les partisans du camp du Leave vont aborder cette journée un peu spéciale avec une certaine sobriété. Ça va pas être forcément l'explosion de joie. Et d'ailleurs, Big Ben va pas sonner, hein.
Ils vont l'aborder avec sobriété parce que il faut fêter d'avance quelque chose qui ne sera en fait réalisé que dans un an. Ce serait un peu vendre la peau de l'ours et ça serait donner aux négociations qui vont s'ouvrir une coloration que Johnson n'a pas envie de leur donner. Il veut garder le jeu ouvert. C'est un homme beaucoup plus prudent qu'on ne l'imagine. Et lui et Barnier font bien la paire en réalité. Donc voilà. Mais alors du point de vue de l'Europe, il y a quand même une leçon à tirer de tout ça, c'est que ce qui vient de se passer avec l'Angleterre oblige l'Europe à renoncer à la mythologie ancienne des années 60, 70, 80 et 90. C'est-à-dire que l'Europe était une sorte de mécanique inexorable, c'était le sens de l'histoire. Il n'y avait pas d'autre horizon que ça, etc. Ben non, c'est pas inexorable, et on peut, par volontarisme, essayer de croire à un autre horizon. La Grande-Bretagne vient de nous en donner la preuve, et si elle s'en va, c'est pour une question d'identité, c'est parce qu'elle avait l'impression qu'elle perdait son identité dans cet ensemble européen. Alors si la construction européenne donne à certains l'impression qu'elle menace la personnalité des nations qui composent l'Europe, ça oblige l'Union à se poser une question existentielle, qui est sa géopolitique, son identité, et je dirais même sa légitimité, parce que l'Union européenne a été historiquement construite sur l'économique et le financier, exclusivement. Ça ne donne pas une légitimité. Alors ça reste, comme le disait un confrère, un objet bancal, l'Europe, qui repose sur les États-nations, tout en cherchant à les chapeauter par une structure commune et un certain degré de supranationalité. Alors cette ambiguïté fait que les choses ne sont pas claires. Et quand les choses ne sont pas claires, un pays comme l'Angleterre peut avoir envie de les clarifier brutalement.
Allez, une ultime conclusion, Jérôme Clé, très rapidement avant de faire une pause.
Ouais, très rapidement quand même pour montrer que l'Union européenne a quand même eu des avancées au niveau environnemental, social. Pas assez pour certains, mais les Britanniques ont été les premiers à appliquer les décisions une fois qu'elles étaient votées au sein de l'Union européenne, contrairement à la France qui souvent traîne des pieds et se fait condamner.
Allez, on se retrouve dans une petite minute avec mes invités Patrice de Plainquette, Aymeric Christensen et Jérôme Quéré pour revenir sur l'actualité de la semaine. On parlera du virus qui suscite pas mal de craintes, qui a débuté sa propagation en Chine et il y a quelques cas qui ont été trouvés dans un certain nombre de pays dans le monde. On parlera aussi du plan de paix israélo-palestinien de Trump qui suscite pas mal de controverses. Et puis, vous aurez droit aussi au coup de cœur ou au coup de gueule de la semaine. À tout de suite.
Le temps de le dire revient dans un instant.
L'épidémie de coronavirus vient d'être qualifiée par l'OMS d'urgence de santé publique de portée internationale. Si le bilan se modifie de jour en jour, il est en Chine d'au moins 9000 cas et de plus de 200 morts dans le reste du monde, en Asie, en Europe, aux États-Unis et en Australie. Quelques cas ont été déclarés bien qu'isolés. Ils sont pris au sérieux par les autorités sanitaires tout de même. Ce virus qui affecte les voies respiratoires appartient à la même famille que le SRAS, mais est toutefois considéré par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies comme moins puissant, quoique plus contagieux que ce dernier. Alors on peut dire, peut-être pour commencer, Patrice de Plainquette, que nous voyons à travers cette épidémie et ses risques de propagation un des effets de la mondialisation ?
Sans aucun doute. En tout cas, un des effets des communications aériennes à grande vitesse et massives. Il est bien certain que l'effet du trafic aérien sur la civilisation mondiale est déterminant. Les civilisations mondiales et santé publique et les problèmes de population. Cela dit, il ne faut pas non plus évacuer le politique de cette affaire. Car entre les pays occidentaux très inquiets et le gouvernement chinois, il y a un violent malaise politique qui s'est instauré au travers de cette alerte au coronavirus. Parce que le gouvernement chinois est en faute et le sait très bien. Le système médico-hospitalier chinois est très déficient. Les hôpitaux sont sous-équipés, ils sont saturés. Ça se passe très mal pour l'instant. Alors on séquestre la population, d'où ces vues de films de science-fiction où on voit des rues désertes dans des villes gigantesques, c'est à n'y pas croire. Le gouvernement chinois n'a qu'une peur, c'est que la population s'affole, parce que des millions de gens qui s'affolent, c'est redoutable pour un système politique, aussi totalitaire soit-il. Et il ressent comme dangereux l'évacuation des ressortissants occidentaux. Parce que si la population chinoise voit l'évacuation, et elle ne peut pas ne pas l'avoir ou au moins être tenue au courant, à ce moment-là, la panique est garantie, elle est certaine.
Oui, mais tout de même, Patrice de Plainquette, non, je vous laisse terminer, pardon.
Oui, la défiance des autorités chinoises, l'obstruction administrative mise aux vols spéciaux de la France, de l'Allemagne ou des États-Unis, qui n'obtiennent pas facilement le droit d'atterrir, tous les incidents qu'il y a sur les aéroports avec les décollages et les atterrissages. Ça, c'est un problème.
Mais tout de même, les autorités chinoises, puisque je parlais du SRAS par rapport à cette épidémie des années 2003, on peut dire quand même que les autorités chinoises, pour ce qui est du coronavirus, ont pris des mesures beaucoup plus rapidement qu'ils ne les avaient prises pour le SRAS, hein, puisque Pékin a réagi quand même 15 jours après le début de la propagation de ce virus, alors qu'il a fallu plus de 3 mois concernant le SRAS, Aymeric Christensen.
Oui, le gouvernement chinois a réagi plus vite. Il faut noter quand même que le gouvernement chinois n'a pas le choix. C'est-à-dire que le SRAS a laissé des traces très très profondes, que ce soit dans la population chinoise ou dans le reste de la communauté internationale. Effectivement, 4 mois pour alerter l'OMS, c'était beaucoup trop. La leçon a manifestement été retenue. C'est la première chose. Le gouvernement chinois sera peut-être aidé là-dessus, même s'il faut rester prudent parce qu'on est qu'au début d'une propagation, par le fait que le virus, comme vous le disiez, est sans doute un peu moins virulent et se propage moins vite. Mais voilà, après, le gouvernement chinois a une carte dans sa manche, si j'ose dire, et je ne sais pas si c'est une bonne chose de s'en réjouir, mais voilà, c'est qu'il a une force de frappe en termes de réaction en interne, en tout cas, et c'est l'avantage, entre guillemets, d'un régime autoritaire. Il est capable de faire beaucoup très vite pour essayer de réagir, d'autant plus que pour lui, c'est un enjeu international, mais c'est surtout et d'abord un enjeu de propagande en interne.
Sur le plan de la régulation sanitaire, j'allais dire, Jérôme Quéré, comment ça se passe concrètement, justement, sur le plan européen pour éviter que ce genre de virus ne se propage? Est-ce qu'il y a des mesures très restrictives prises sur un plan européen, sur un plan de l'Union européenne?
Alors, il y a une coordination très étroite entre les différents pays de l'Union européenne. Il y a un mécanisme de protection civile qui a été mis en place depuis 2001 et qui a notamment servi à plus de 300 reprises pour le virus Ebola en 2014. Donc c'est un mécanisme qui permet de rapatrier les ressortissants européens. Dans la région de Wuhan, il y a seulement la France qui est représentée avec un consulat, pas les autres pays. Donc s'il y a des Roumains, des Polonais, des Bulgares, etc., ils ne bénéficient pas de consulat. Et bien ils peuvent aller dans le consulat français. Ils peuvent être rapatriés grâce justement à ce relais français. Et donc c'est l'Union européenne qui prend en charge à hauteur de 75% minimum le rapatriement des Européens sur place. Donc ça a déjà été mis en place en 2014 avec Ebola. C'est mis en place cette semaine. Il y a déjà un avion qui a été envoyé pour 100 ressortissants de l'Union européenne. Il y a un autre avion qui sera envoyé dans la foulée. Et on se coordonne au niveau européen. Il n'est pas question que les Français rapatrient les Français, les Espagnols, etc. J'ai failli dire les Britanniques. Parce qu'ils n'en font plus partie. Mais d'ailleurs, ils n'ont jamais fait partie.
Oui, d'accord.
Lorsque dans ce mécanisme, tout le monde n'est pas d'accord pour avancer à l'unanimité, certains qui sont d'accord peuvent avancer sans les autres. C'est le cas. Aujourd'hui, il y a 4 pays qui n'en font pas partie, hors Royaume-Uni.
Mais bon, il y a bien sûr des contrastes entre les pays, entre l'Europe par exemple et la Chine. Patrice de Plinquette, il faudrait une instance. Il y a l'OMS qui existe, mais est-ce que l'OMS est en capacité d'avoir, une vue globale sur l'importance de la protection sanitaire?
C'est son métier en principe. C'est son métier en principe. Mais quand on passe en quelques jours du pas de panique au stade urgence internationale, on déconcerte évidemment les populations qui ne peuvent pas savoir que c'est une question de paramètres, que ça obéit à des nuances très scientifiques de diagnostic et d'évaluation, et qu'il est normal que ce soit progressif. Les gens ont l'impression que l'OMS ne sait pas bien, n'est pas très lucide. En réalité, c'est pas du tout un problème de lucidité. C'est un problème, effectivement, de progressivité des analyses et des enquêtes. Cela dit, l'autorité de l'OMS sur la Chine, elle-même, est très relative. Parce que ce qui est quand même frappant de la part des gouvernements en général, le nôtre a été un peu comme ça au début, dans les premières 48 heures. Le premier réflexe, c'est évitons la panique. D'où le fait que les gens qui débarquaient à Roissy n'étaient pas filtrés. Donc, on va probablement voir de nouveaux cas apparaître. C'est probable. Le filtrage n'a commencé que très progressivement. Et je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais les passagers, seuls les passagers arrivant de Wuhan, même, vont être mis en quarantaine à Carrie-Leroy. Ceux qui arrivent de Chine en général, et qui sont parfaitement susceptibles d'avoir été contaminés, un peu moins qu'à Wuhan, mais quasiment, puisque des millions de gens, de Wuhanais, ont quitté la ville pour les fêtes du Nouvel An lunaire, et se sont répandus dans toute la Chine pour aller voir leur famille. Donc, toute la Chine est potentiellement contaminable. Voilà, je veux dire que le passage entre les différents stades d'alerte, du pas de panique au « attention, c'est grave », ça ne peut que déconcerter les populations et ça ne donne pas vraiment confiance.
On arrive quasiment à un scénario de science-fiction. Emery Christensen, on parlait des effets de la mondialisation au début avec Patrice de Plinquette. On a, je ne sais pas si vous vous souvenez, parlé de péril chinois il y a quelques années. Et on a l'impression qu'on n'est pas loin justement de cet emballement aujourd'hui.
Oui, on n'est En tout cas, on peut avoir le sentiment de se rapprocher d'un scénario de science-fiction aussi parce qu'on en raffole hein, aujourd'hui. Ne nous leurrons pas là-dessus. On aime beaucoup regarder ce genre de scénario.
On aime se faire peur. C'est ce que vous voulez dire ?
On aime se faire peur, mais du coup, quand la menace arrive, non, ce que je veux dire surtout, c'est que quand la menace arrive, on n'est pas du tout préparé. Parce que si je peux prendre un peu de champ là-dessus, des épidémies très virulentes, mortelles, et qui se diffusent très rapidement, l'histoire humaine en a connu plein. Alors, pas forcément mondial, mais on en a connu plein. Si on reprend le virus chinois, apparaît à peu près début décembre. En France, début décembre à Lyon, en fait, la fête des Lumières, qui commémore quand même la peste au XVIIe siècle, et cette façon dont la ville aurait été protégée. Je perds le fil de ma pensée, mais aujourd'hui on n'a pas la ressource face à ça, c'est-à-dire qu'on a une vulnérabilité. Autrefois la médecine était impuissante, mais vous aviez des ressources spirituelles pour tenir face à une épidémie comme ça, face à un danger. Aujourd'hui c'est presque l'inverse, la médecine se croit toute puissante, on a l'impression d'être protégé de tout, ça dépasse même la médecine, mais on n'a plus cette résistance intérieure qui nous permet de relativiser aussi les choses. Et ça c'est valable dans le domaine de la santé, mais c'est aussi valable avec la crise écologique, où on se sent particulièrement vulnérable, c'est aussi valable avec le terrorisme. Cette vulnérabilité profonde, spirituelle, c'est aussi un ressort sur lequel il faut travailler.
Ouais, on n'est plus invincible, on est rappelé à notre fragilité, Patrice de Plainquette.
On est rappelé à notre fragilité, on n'a plus de ressources intérieures. C'est un peu, ça me fait penser à un article que je lisais hier dans Libération et qui parlait d'une époque ulcérée, nihiliste, ricanante et narcissique. Oui, ça c'est la face,
c'est la face
noire de notre époque. Mais si c'est ça qu'on appelle les valeurs postmodernes, on comprend que la première alerte un peu grave. Les gens craquent, parce qu'on ne voit pas très bien dans quelles ressources intérieures ou communautaires ou collectives, ils pourraient trouver de quoi se raccrocher moralement. Mmh. Alors il est certain que nous sommes beaucoup plus fragiles qu'avant.
Et sur les conséquences négatives, c'est vrai que c'est des conséquences auxquelles on n'aurait pas pu forcément s'attendre, mais je ne sais pas si vous avez vu ça dans les médias, Jérôme Quéré, le racisme anti-asiatique qui est né après cette propagation du coronavirus en France ou ailleurs d'ailleurs, c'est quand même assez étonnant comme conséquence.
Je suis pas sûr qu'on puisse malheureusement dire que c'est étonnant, le racisme ne demande que des prétextes pour s'exprimer, pour se répandre. Le racisme, il est présent en France bien avant, et malheureusement sur ces cas-là, oui, on peut s'étonner parce qu'on se dit mais pourquoi, en fait c'est complètement absurde, mais le racisme est présent en France, il faut en faire le constat pour pouvoir le combattre.
Émeric ?
Oui, il faut préciser quand même que la peur n'est pas rationnelle, et évidemment que ça se manifeste avec des effets de racisme qui nous apparaissent et qu'il faut dénoncer, d'autant plus qu'ils sont totalement irrationnels. Mais regardons aussi en Chine. En Chine, il y a un ressentiment énorme et une peur énorme qui se manifeste à l'égard des habitants de Wuhan. Aussi, c'est-à-dire qu'au sein d'un même pays, il y a cette idée d'assimiler des personnes à la propagation d'un virus. Ça n'a pas de logique profonde, mais d'une certaine façon, c'est irrationnel. Ça fait partie aussi de nos peurs et de notre vulnérabilité.
Ouais, et là, on pourrait peut-être, pour conclure, revenir aussi à l'histoire. Il y a de nombreux cas où, justement, il y a des catégories de population qui étaient ciblées, qui étaient considérées comme responsables de tel ou tel mal. Patrice ?
Oui, on peut aussi revenir à la littérature, parce que si vous relisez Le Hussard sur le toit de Giono, oui, vous découvrez qu'au moment du grand choléra qui a ravagé tout le Midi, c'était quasiment de village à village qu'on s'entre-accusait et qu'on s'excluait et qu'on pensait que c'était le village d'à côté qui portait la mort. Et là, il n'y avait pas de racisme, c'était tous des Provençaux, ils parlaient tous provençal. Et puis, bon, on parle de racisme anti-chinois. J'écoutais bien les indices qu'on en donne, qu'en donnent nos confrères. De quoi parle-t-il ? Il n'en citait qu'un seul exemple. C'est que dans les cours de récréation, les gamins de 8 ans, qui ont, quand il y a par hasard un ou deux ou trois petits Asiatiques dans leur classe, jouent très méchamment à s'approcher d'eux et à s'enfuir en hurlant. Bon, mais ça, Est-ce que c'est du racisme? Je dirais non. C'est les jeux méchants dont les petits-enfants sont, hélas, familiers depuis toujours. Car un enfant, c'est facilement méchant. Et les jeux, la désignation de bouc émissaire ou de mouton noir dans une classe, c'est malheureusement aussi vieux que l'existence du système scolaire. On a toujours vu ça dehors ta gueule à la récré. C'est un peu ça. Alors, ne parlons pas trop vite de racisme anti-chinois.
Alors, il y a quand même une nouveauté par rapport au cours d'école, c'est les réseaux sociaux et sur Twitter. Les personnes adultes peuvent aussi être très méchantes et très racistes. Et là-dessus, bénéficier de l'anonymat ou pas, d'ailleurs, parce que maintenant, on n'a que faire de l'anonymat. On est raciste et vulgaire sur les réseaux sociaux énormément. Et il y a beaucoup de personnes d'origine asiatique, pas que chinoise d'ailleurs, parce qu'il y a un amalgame énorme, qui en souffrent au quotidien.
Allez, on en reste là sur le sujet. On passe au dernier sujet de la Formule Club cette semaine.
Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF.
Je pense que ce plan a une chance de favoriser la paix, a déclaré Donald Trump mardi à la Maison-Blanche. Il s'inscrit dans une solution à deux États. Il est en réalité clairement en faveur de la politique israélienne du gouvernement Netanyahou, tant les concessions demandées aux Palestiniens sont importantes. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a indiqué dans une lettre envoyée au Premier ministre israélien que l'acceptation par Israël du plan de paix américain signifie la mort possible des accord d'Oslo. Alors, quand Donald Trump dit « je pense que ce plan a une chance de favoriser la paix », en quoi se trompe-t-il, Patrice de Plainquette ?
Il se trompe en ce sens que favoriser la paix n'est pas son objectif. Il ne se trompe pas, il bluffe. Il bluffe le monde une fois de plus et il bluffe son propre électorat. C'est une décision internationale aberrante, aberrante au regard du droit international et aberrante au regard de la situation au Proche-Orient. C'est une décision qui a été prise dans le cadre de la campagne présidentielle américaine. Pourquoi ? Parce que les 25% d'électeurs évangéliques, protestants évangéliques américains, qui votent indéfectiblement pour Trump, sont très largement persuadés, pas tous heureusement, mais très largement persuadés, que lorsque les Israéliens juifs auront quasiment expulsé les Arabes du territoire de l'Israël biblique, le Christ reviendra sur la terre. Alors, je ne sais pas où sont allés chercher ça, parce que ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais en tout cas, ils en sont persuadés, et la décision de Trump les a littéralement enthousiasmés. Elle a beaucoup moins enthousiasmé en Israël même. C'est une chose qu'il faut voir et savoir. Les services de sécurité israéliens, quand ils ont vu au début de la semaine les détails du plan américain, ils ont découvert en réalité de quoi le contenu du plan américain, on fait savoir que appliquer ce plan maintenant dans l'état actuel des choses, ce serait une réaction rapide et irréfléchie, et qu'il y a besoin de temps. Ils ont en réalité très peur des conséquences, parce qu'elles sont non maîtrisables, les conséquences. Et du point de vue du déploiement des forces de sécurité israéliennes et du point de vue des réactions arabes. Mais là encore, nous sommes dans une campagne électorale. Vous me direz qu'Israël est en campagne électorale permanente. Mais Netanyahou compte passer en force aux prochaines législatives grâce au soutien de Trump et à l'annonce à roulement de tambour de ce plan américain pour le Proche-Orient. Enfin, c'est quand même ahurissant qu'un État tiers, les États-Unis, donne à un autre État des territoires qui appartiennent à un troisième État en gestation.
Oui. Là, ce qu'il faut dire, effectivement, Emre Christensen, c'est que Trump consacre d'une certaine façon la politique de colonisation d'Israël au mépris donc des Palestiniens et au mépris du droit international.
Et il la consacre pas d'une certaine façon, il la consacre totalement, absolument et de manière assumée. Et ce qu'il faut garder en tête, effectivement, alors d'une certaine façon, là, les Palestiniens se retrouvent otages de la campagne électorale de Donald Trump. Et même otages au sens où ils sont aussi suspendus à sa réélection ou non, parce que on peut imaginer qu'un autre gouvernement reviendrait sur ce plan de la part des États-Unis, mais si Trump est réélu, pour le coup, il va vouloir aller jusqu'au bout. Voilà. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Trump avant d'être président américain, avant d'être une personnalité du monde de la télévision et des médias, c'est un agent immobilier. Il a commencé sa carrière dans l'immobilier et il a des réflexes de l'immobilier qui sont quand même assez saisissants dans sa manière de mener sa politique. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris acte d'un rapport de force qui existe entre Israël et la Palestine, mais aussi d'un rapport de force international avec l'incapacité de la communauté internationale à faire la paix dans cette région depuis des années. Et ce qui était un préalable de la communauté internationale, à savoir le démantèlement des colonies israéliennes, illégales, puisque ça n'a pas fonctionné, prenons le plan totalement à rebours et redéroulons complètement autre chose. Et qu'est-ce qu'il propose en échange de ça aux Palestiniens? Eh bien, de faire des concessions immenses, certes, mais contre de l'argent. On met 50 milliards sur la table si vous êtes bien gentil. Vous aurez un niveau de vie meilleur, vous pourrez réaliser plein de choses. Renoncez juste pour ça à votre État, à votre souveraineté, et tout ira bien.
Alors, il ne dit pas que les Palestiniens doivent renoncer à leur État. Si j'ai bien compris, il y a une solution à deux États qui est toujours maintenue dans l'esprit de ce plan, même si il n'y a pas de solution à deux États digne de ce nom. Et ça, je crois que c'est aussi la position de l'Union européenne, Jérôme Kéré, si Israël poursuit cette politique de colonisation.
Oui, il y a eu quand même des résolutions de l'ONU qui expriment la volonté d'une solution à deux États, hein, comme depuis 2003. Et l'autre condition, c'est la condamnation des colonies. Et donc ça, l'Union européenne reste sur ces positions-là, hein, position de la communauté internationale. Elle ne change pas d'avis au gré de tweets. Et donc c'est la position qu'a exprimée Josep Borrell, qui représente l'Union européenne à l'extérieur. Voilà, on reste fidèle à ces résolutions internationales, donc de l'ONU, et on veut réaffirmer notre volonté de mettre ensemble les gens autour de la table, de discuter. C'est difficile, mais avec des déclarations telles que celles de Donald Trump, ça ne facilite pas les choses. Je pense que ça va retarder encore et compliquer la situation. Ça va galvaniser en effet les troupes de Netanyahou. Et de l'autre côté aussi, ça va encore plus énerver les Palestiniens. Donc c'est mettre de l'huile sur le feu, comme le fait tout le temps Donald Trump. Je ne sais pas ce qu'il espère en gagner, en bénéficier, en dehors de se faire réélire pour galvaniser ses propres troupes aux États-Unis. Peut-être que c'est juste une vision à court terme comme celle-là.
En tout cas, le processus de paix au Proche-Orient, dans ce conflit israélo-palestinien, semble stagner depuis des années. Ça a au moins le mérite, peut-être, cette annonce, même si on peut être opposé à ce qu'il annonce, de bousculer les choses, cette annonce de Donald Trump, et peut-être de se reposer à nouveau frais la question de la résolution du conflit. Patrice de Plainquette ?
Oui, certainement. Mais excusez-moi, je voudrais soulever un autre point qui est énorme. Si Israël annexe les territoires, c'est le risque pour la population juive de se retrouver en minorité. À ce moment-là, c'est la fin du rêve sioniste. Est-ce qu'ils ont réfléchi à ça à Washington ? Et est-ce que Netanyahou lui-même a réfléchi à ça ? Parce qu'on ne peut pas imaginer une seconde qu'Israël, qui est une démocratie, instaure un régime d'apartheid. Alors, on est devant la décision la plus ubuesque qu'on puisse imaginer. Tout ça à court terme, sacrifié à des intérêts électoraux.
Allez, on en reste là sur ce sujet. On aura l'occasion d'y revenir dans une autre émission du Temps de le dire, j'imagine. On passe à la dernière séquence de cette émission.
Le Temps de le dire, Antoine Bélier.
Allez, très rapidement, puisqu'il nous reste que 2 minutes avant la fin de cette émission, les coups de cœur, les coups de gueule. Aymeric Christensen, je vous écoute.
Je prends un petit peu d'avance pour un coup de cœur. Le 6 février, donc dans une semaine, sort un livre de Jérôme Ancibero qui s'intitule Presque Saint, chez Talendier. Jérôme Ancibero était mon prédécesseur à la rédaction en chef de La Vie et il réalise un très, très bel ouvrage, un bel essai sur les causes de canonisation ratées ou interrompues et les cas limites de causes de canonisation dans l'histoire de l'Église. C'est passionnant, ça se lit comme un polar et ça a un gros avantage, c'est que ça permet en parallèle de mieux comprendre le processus.
Ça sort aux éditions Talendier le 6 février. Jérôme Kéré.
Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais au moins un coup d'émotion. C'est le départ des députés européens britanniques du Parlement européen et leurs collègues se sont levés, sont tenus la main en chantant en anglais avec le hashtag qui s'est répandu sur les réseaux sociaux « Leave a light on », puisqu'on espère peut-être qu'un jour ils nous rejoindront à nouveau.
Et ils vont devenir quoi alors, ces députés, ces ex-députés du Parlement ?
Ils rentrent au Royaume-Uni et ils n'ont plus de siège. C'est réparti entre les autres.
Patrice de Plainquette.
Paris, le Collège des Bernardins organise les 6 et 7 février un colloque en partenariat avec l'Institut catholique et le Centre Sèvres, intitulé « Gaïa face à la théologie, l'enjeu religieux de la mutation climatique ». C'est extrêmement important. Tous les renseignements sur ce site internet, collège des Bernardins en un seul mot, .fr.
Alors, il vous reste 40 secondes, Patrice de Plaquet, donc si vous avez un coup de gueule, c'est le moment.
Pas de coup de gueule, mais je veux redire que Gaïa, c'est le nom d'une hypothèse scientifique, c'est pas le nom d'un culte païen. La Terre est un système global autorégulé, équilibré par les interactions entre tous les différents êtres qui l'habitent. Donc, notre responsabilité.
Et j'en profite pour dire que RCF, depuis début janvier, vous propose une émission consacrée à l'écologie. C'est une émission qui est présentée chaque semaine le vendredi à 17h par Anne Kerléo. Ça s'appelle « Comme une planète ». Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore écouté, à écouter le podcast de cette émission ou à l'écouter en direct. Donc, c'est chaque vendredi à 17h. Et aujourd'hui, il me semble que Anne Kerléo va recevoir Damien Carême, qui est le maire de Patrice de Plaquet, Grande-Synthe, hein, c'est ça ? Dans le Nord ?
Oui.
Voilà, et donc qui est vraiment employé, engagé hein, sur ces questions écologiques et environnementales. C'est la fin de cette émission. Merci à Pierre-Henri Paget de l'avoir réalisée. Je vous retrouve lundi matin dès 9h sur RCF. Nous parlerons de la vie consacrée, de ces laïcs consacrés qui s'engagent au service de l'Évangile au cœur du monde. Bérangère Loup, bonjour.
Bonjour Anthony.
Comment allez-vous ce matin ?
Je vais très bien. Et mon coup de cœur personnel du jour, Antoine, c'est vos émissions que l'on peut retrouver.
Ah bah c'est gentil,
bah oui, c'est vrai. Sur rcf.fr, le temps de le dire. Voilà le nom de vos émissions. Merci, bon week-end à vous, Antoine.
Bon week-end, allez, on jardine.
Exactement.
À 10h.
Oui, et nous allons découvrir le terme racine nue. Que signifie ce terme ? Et nous allons apprendre, justement, ce matin avec Dorothée Fallière, à planter des végétaux à racine nue. Nous y verrons aussi les avantages et les inconvénients. Dorothée Fallière est là pour répondre à toutes vos questions. Nous jardinons ensemble dans quelques secondes.